19, le magazine.
Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, je peux désormais dire bonsoir, car la nuit est arrivée. Le thème de cette émission, hommage à Vincent-Paul Toccoli. Vincent-Paul Toccoli nous a quittés dans la nuit du 4 au 5 août 2013. Prêtre salésien, diplômé des bouddhistes, psychanalyste, animateur d'émissions de télévision, écrivain, 56 ouvrages, dont, à ma connaissance, 36 sont publiés, conférencier remarquable et tant d'autres aspects que l'on va essayer de découvrir un peu plus dans cette émission. J'ai rencontré la dernière fois Vincent Paul en juin. Il pressentait son départ. Il avait alors devant moi un geste dont je me souviendrai longtemps. Vincent Paul, explorateur de l'humain. Vincent Paul, inquiet, doutant, croyant, mais jusqu'au bout, compagnon du Christ. Vincent Paul, comme un enfant, émerveillé de l'arrivée du pape François. Vincent Paul, bourru comme un marin, résistant au cœur des tempêtes. Vincent Paul, parfois excessif. Vincent Paul, aux 56 essais, dont, à ma connaissance, donc 36 publiés. Vincent Paul, avec une idée, certains diraient toutes les minutes, au moins une par jour. Vincent Paul, probablement encore plus cultivant dans son oralité que dans ses écrits. Vincent Paul, plus méconnu, d'une générosité rare, cherchant jusqu'au bout son souffle, mais étant habité jusqu'au dernier moment du souffle de l'esprit au sens le plus noble et le plus humain du terme. Vincent Paul, soucieux, pour ne pas dire parfois angoissé, devant la mission qui s'était fixée. Vincent Paul, enfin, en quête de l'inespéré. Un penseur, un défricheur dont les traces restent à explorer, et nous allons dans cette émission esquisser quelques perspectives, un peu comme un prince, par touches successives, pour monter la complexité, le mystère de Vincent Paul. Dans le studio, j'ai avec moi Ève Depardieu. Ève, bonsoir, vous avez été la collaboratrice de Vincent Paul et vous l'avez connu à deux moments différents, je crois.
Oui, c'est-à-dire que je l'ai connu dans les années 80. Donc là, il y a eu un moment où je le voyais de temps en temps. Et puis ensuite, en 2004, lorsqu'il a créé le Cercle Philosophia.
Alors nous reviendrons tout à l'heure là-dessus. Nicole Sabac, vous l'avez connu à l'occasion de l'Académie Clémentine.
Voilà, je l'ai connu par des amis communs. Et comme vous l'avez dit très justement, il avait un projet par minute. Et il avait parfois des difficultés pour concrétiser ses projets. Donc il souhaitait établir une structure, une association qui lui permettrait, avec un groupe d'amis, de mettre en œuvre ses idées. Donc on a créé l'Académie Clémentine grâce à lui et pour lui au départ, voilà, en 2002.
Nous allons en reparler aussi dans un instant. Nous aurons à l'antenne Claudine Lange, qui interviendra de Lyon, Frédéric Ovadia, son dernier éditeur à Nice, Jean-François Matty à Marseille, si nous pouvons le joindre, puisqu'il est actuellement dans le train rentrant d'une émission de télévision de Paris et va arriver à Marseille dans quelques minutes. Et enfin, un témoignage de Max Potti, que nous avons joint avant l'émission, aux États-Unis et qui va rentrer dans la nuit. Voilà, nous allons aussi accompagner cette émission de trois musiques, un peu comme des Madeleines, dans l'émission d'Olivier Bellamy, que je salue au passage, car j'apprécie beaucoup son émission. Et la première Madeleine, c'est quelqu'un qui l'a choisie. C'est une musique de Nausicaa, d'un cinéaste, Nicole, qui l'adorait, qui était...
Miyazaki.
Voilà. Alors, c'est une adolescente qui a choisi cette partition de Nausicaa que nous commençons à écouter.
Mais il aimait le Japon tout entier, hein, pas que sa musique.
Thank you.
Voilà cette musique choisie par une adolescente. Et Vincent Paul, si tu l'entends là où tu es, sache que cette adolescente veut te dire merci un jour de lui avoir répondu avec beaucoup de simplicité qu'il l'a impressionnée sur qu'est-ce que la foi et qu'est-ce que ta foi. Alors Ève, vous avez connu Vincent Paul, c'est un personnage complexe aux multiples facettes.
Oui, tout à fait. Comme Nicole, je l'ai connu par des amis communs. Et à l'époque, dans les années 80, il animait le Jean Bosco Service, c'est ainsi qu'il avait appelé cette activité, et il donnait beaucoup de conférences, de cours auxquels j'ai pu assister. Et également, dans son activité de psychanalyste, il recevait donc dans son cabinet des personnes en souffrance. Et à l'époque, il y avait aussi cette mode, entre guillemets, de dynamique de groupe, où les personnes pouvaient donc se parler d'une manière un peu... Enfin, menée par Vincent Paul. Et il faisait comme ça des rencontres, qu'il appelait les mammouths. C'était assez impressionnant, où il y avait une quinzaine de personnes, pendant 2 jours et demi, dans un lieu beau, tranquille, et dans lequel on pouvait donc se concentrer. Et donc, il menait ces dynamiques de groupe d'une façon assez spéciale, à sa façon. À l'époque, il utilisait beaucoup de musique, il utilisait énormément d'images. C'est à cette époque, d'ailleurs, qu'il a édité son livre pour les enfants, Si la Bible m'était comptée, dans les années 80-84. Qui est un très beau livre. Mmh. Donc, il pensait qu'il fallait s'adapter à l'époque et qu'il fallait utiliser énormément les images, également le cinéma. Mais là, bon, en l'occurrence, les images, c'était plus facile à manipuler. Et il faisait cette dynamique de groupe en mettant des musiques, en utilisant des images pour que les gens puissent se sentir plus détendus et en même temps plus rassurés, parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui pouvait un petit peu déstabiliser, surtout les personnes les plus fragiles. Voilà. Alors dans ces moments, il avait toujours quelqu'un en miroir. Il voulait une personne qui puisse lui dire en miroir ce qu'elle pensait du déroulement des choses. Et une fois, j'étais appelée à être ce miroir, très impressionnant. Ce qui m'avait particulièrement frappée chez Vincent Paul à l'époque, c'était son activisme. Il menait de front je ne sais combien d'activités, et aussi sa force de travail, une force alors considérable.
Alors, Evelyne est un diminutif, oui. Eve c'est l'origine.
Oui.
Nous continuerons tout à l'heure ce témoignage, oui. Je vais vous donner déjà une première impression, une première palette de ce qu'était Vincent Paul, et vous insistez sur ses activités absolument très variées, enfin, on a l'impression qu'il ne s'arrêtait jamais.
Voilà, jour et nuit presque.
Voilà, alors nous allons avoir un autre témoignage de Claudine Lange, qui est actuellement à Lyon, et que nous allons avoir en direct. Elle va nous dire son ressenti, elle l'a bien connu dans le cadre de Monsartou, elle l'a reçu chez lui. Bonsoir Claudine.
Bonsoir Michel.
Alors Claudine, dites-nous ce que vous avez envie de nous dire sur Vincent Paul.
Oh, j'aurais envie de dire beaucoup de choses, mais je vais essayer d'être brève. Alors la première chose que j'ai envie de dire, c'était la première vision que j'ai eue de Vincent Paul, il y a, je ne sais pas, une douzaine d'années. Quand je l'ai vu à une conférence par Sciences Pensées, et qu'il était sur une estrade au bout d'une table ronde, et moi j'ai pensé, c'est un rocher, un gros rocher au bord d'une falaise. Sa chaise était à 1 mm du bord de l'estrade, et je me disais dans la salle, ça y est, il va tomber, ça va être une catastrophe. Et donc, je dis ça à Paul, qui me dit, bah, vite lui dire. Alors, je fonce vers l'estrade, je dis à Vincent Paul, que je ne connaissais pas, vous allez tomber. Ah oui, c'est ma chaise, dit-il. Et sans un regard, il continue à parler avec ses petits camarades. Et je me dis, quoi, je le sauve de la mort, il n'a même pas un regard pour moi. Et j'étais un petit peu vexée. Ça, c'était la première fois. Ensuite, je l'ai bien connu, invité chez moi. On a fait des connaissances. Et je peux dire que c'est l'homme le plus explosif que j'ai jamais connu. toujours, enfin, on craint ses colères. Hein. Alors chez moi, cette première fois, je me dis, tiens, j'ai invité des amis qui ont envie de discuter, qui ont envie de parler de théologie, de Dieu, des religions. Ça n'a pas duré plus de 10 minutes. À un moment, Vincent Paul a explosé en disant, si c'est pour entendre toutes ces conneries, je m'en vais. Waouh, ça a jeté un froid dans le dîner. Tout le monde s'est mis profil bas. Et bon, le dîner a continué et il n'est pas parti. Mais la leçon avait porté, en tout cas pour moi. Troisième image de Vincent Paul, l'homme de tous les excès. Il mange trop, il boit trop, il pense trop, il parle trop, il écrit trop, tout est trop chez lui. Je crois que c'est sa façon naturelle d'être. Donc, il est toujours un ogre qui râle tout, qui veut tout dévorer. Ça, c'est le troisième Toccoli. Et puis, c'est aussi l'homme de toutes les insolences. Alors bon, je crois que je n'apprends rien à personne en rappelant tout ce qu'il a pu dire d'impertinent à l'égard de la hiérarchie de l'Église, à l'égard des uns et des autres, des gens de pouvoir, même des personnes qui n'avaient pas de pouvoir d'ailleurs. C'était aussi sa façon d'être, l'insolence, et même parfois, il faut le dire, un peu de méchanceté. Il y a des gens à qui il a fait de la peine, c'est vrai. Alors on se dit, mais pourquoi cet homme est prêtre? Parce que quand on pense à un prêtre, un être doux, plein de mansuétude, qui pardonne et tout, c'est pas du tout Vincent Paul Toccoli. Alors pourquoi était-il prêtre? Ça restera un grand mystère. En tout cas, moi je l'ai beaucoup admiré, d'abord pour son immense culture, incollable surtout, le cinéma, la peinture, la littérature, tout. Comme il buvait tout, il avalait tout, il savait tout, et il avait un jugement sur tout, attention, ça c'était très important. Et le courage de ses opinions, de ses convictions, et moi je l'ai vu, c'est le seul homme qui m'a parlé de façon claire de la différence qu'il faisait entre la religion et la foi. Et donc il était très sévère à l'égard des religions, en même temps il ne les rejetait pas puisqu'il en faisait partie, mais il était un homme de foi. Était-il un homme de foi d'ailleurs? Ça restera un deuxième mystère, on n'est pas sûr. Mais c'était très intéressant d'entrer dans cette approche-là et dans son sillage. Et puis, à la fin de tout, moi j'avais compris qu'en plus du Toccoli public, qui parlait magnifiquement, qui haranguait les foules et tout, il y avait aussi un homme qui avait envie d'être un peu cocooné. Et moi j'avais décidé qu'on le cocoonerait quand on l'invitait à la maison, tranquille, entre nous, famille, whisky de 12 ans d'âge, et on parle de choses et d'autres. Voilà ce que je garde de comme souvenir de Vincent Paul, parmi des milliers d'autres choses bien sûr.
Claudine, merci de ce témoignage simple, profond.
Je
passe
mon temps, non.
Si vous aviez deux, trois mots à prendre, Claudine, pour terminer et caractériser Vincent Paul en dehors de ceux que vous avez utilisés, excès, colère, etc.
En dehors de ce que j'ai dit, le talent, la vivacité et une intelligence remarquable, et qui tournait à 100 à l'heure.
C'était une intelligence hors du commun, je pense.
Oui. Il tournait à 200 à l'heure.
Alors je crois qu'il faut se souvenir, et nous arrêterons là, Claudine, votre témoignage, mais je pense que vous serez d'accord, il s'inscrivait dans la logique du « et » et pas celle du « ou » qui rejoint un des thèmes d'Edgar Morin sur la complexité, c'est-à-dire pour lui c'était pas ça ou ça, c'était ça et ça. Et
il cumulait tellement de tous les antagonismes vécus en même temps et de tous les paradoxes. Hein. Moi j'ai rarement vu un être aussi contradictoire dans tous les domaines.
Oui. Quel homme, n'est-ce pas?
C'est le héros dans toute sa splendeur, c'est vrai.
Mais Claudine, je me permets de poser une question, finalement. Vous disiez tout à l'heure, mais pourquoi cet homme ne s'est pas marié? Je poserai la question.
Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas marié. Je ne connais pas sa vie privée.
Non,
je ne sais pas pourquoi il a fait le choix de l'Église. Mais... je ne sais pas s'il se sentait bien.
Je vais poser la question.
Je ne sais même pas s'il croyait en Dieu, d'ailleurs.
Je vais poser la question autrement. Est-ce que vous pensez qu'un homme aussi intense, aussi complexe, aussi mystérieux, peut être porté par une femme en dehors d'une femme qui l'accueille chez lui, comme vous l'avez fait avec votre mari, pour le coucouner de temps en temps.
Ah ben, je pense qu'il y a dû y avoir des femmes qui avaient envie de le coucouner plus, d'être plus près de lui sur d'autres plans, en quelque sorte. Mais, bon, est-ce qu'il n'aimait pas? Est-ce que ça, il avait refusé? Est-ce qu'il avait d'autres désirs intérieurs? Je ne sais pas.
En tout cas, Claudine, retenons son immense culture, son intelligence hors du commun, sa pluralité. Je crois que Ève, il connaissait combien? 7, 8, 9 langues, je ne me souviens plus très bien.
Oui, mais il était toujours hors du commun pour tout.
D'accord.
Pour tout.
Merci,
c'est
Claudine.
C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. L'homme de tous les excès, c'est dans tous les sens. Hein.
Merci, Claudine. Au revoir.
Eh bien, merci à vous de m'avoir demandé mon soutien. Merci. Au revoir, Michel.
Au revoir, Claudine. Ève, votre réaction?
Claudine l'a bien campé, effectivement. Elle a fait le tour de toutes ses facettes. C'est vrai que je pense que s'il avait fallu vivre à ses côtés jour et nuit, je pense que ça aurait été totalement épuisant.
Je pense qu'il invivable. Non, oui. Enfin, je pense que tu es une femme.
Nicole.
Enfin, je veux dire, je pense qu'il était, il aurait été invivable au quotidien, je pense.
Alors finalement, sous forme de boutade, on pourrait dire que Vincent Paul avait été Adam, il n'y aurait qu'Ève dans l'histoire du monde.
Et je l'imagine avec des enfants.
Oui.
Je l'imagine père de famille, je ne sais pas, il aimait beaucoup les enfants, je pense qu'il aimait beaucoup les enfants des autres.
Mmh.
Et qu'il s'attachait beaucoup, il était très tendre, mais je ne sais pas comment aurait-il été avec les siens. Et je pense à l'enfant, peut-être la lourdeur de l'avoir pour père.
Il a eu des neveux qu'il a suivis, qui ont eu peut-être des problèmes de scolarité, etc., et qu'il a beaucoup aidé, donc à qui il a fait du bien pour.
Il ne faut pas oublier, et peut-être on va terminer cette première partie d'émission là-dessus, que c'était un aventurier à sa manière, un défricheur. Un audacieux,
un voyageur,
voilà. et que ce profil permet difficilement de cohabiter régulièrement avec une femme. Mais je pense que sa femme était au cœur de sa vie aussi à sa manière.
La femme, oui, certainement.
La femme, au sens noble du terme.
Absolument.
Gardez l'antenne, chers amis, vous allez écouter les informations et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie. Continuons, chers auditeurs, la découverte de Vincent Paul. Et nous allons essayer d'entrer dans son œuvre ô combien complexe et plurielle par rapport à un certain nombre de thèmes, le voyage, les voyages. Il aurait dû aller en Amérique latine une grande partie de sa vie et finalement, c'est l'Asie qui l'a accueilli en particulier. Il a beaucoup travaillé sur l'interreligieux, l'interreligion, et je pense qu'il faudra aborder ce thème. Il faut voir comment il utilisait les technologies. Il se présentait, Ève, comme le prêtre cyber...
Il voulait créer une cyberparoisse.
Une cyberparoisse, la cyberparoisse.
Voilà.
Effectivement, il utilisait énormément toutes les technologies. Il a été passionné par le développement d'Internet et qu'il utilisait d'ailleurs à fond pour pouvoir diffuser sur la planète entière.
C'était vraiment la planète.
C'est la planète, c'était son terrain, si je puis dire, il ne s'arrêtait pas à des frontières. Et d'ailleurs, il a fait des voyages à travers l'Asie et les États-Unis, je ne sais pas s'il
si était allé. Il n'était pas tellement fasciné par la civilisation
par l'Ouest,
américaine.
Mais du côté de l'Orient, et du fait d'ailleurs de ses racines, il était passionné par l'Orient et il a fait comme ça plusieurs voyages, en particulier cette fameuse route de la soie. Mais peut-être, Nicole, tu peut en parler.
Alors, on va basculer effectivement de l'usage des technologies qu'il faisait, et avec ce concept de cyberparoisse, préparant les serments 8 et 15 jours à l'avance,
Et
étant utilisés dans le monde entier par des prêtres, avec des traductions en anglais, en espagnol, enfin c'était assez impressionnant. Alors, il y avait aussi le thème du voyage, qui a été l'occasion un petit peu de la création de l'Académie Clémentine.
Voilà, alors l'Académie Clémentine, donc on a créé avec lui en 2002. Alors, je réponds tout de suite à votre question, pourquoi Clémentine? Ce n'est pas la grume, c'est un hommage à Clément d'Alexandrie, qui est un père de l'Église grecque du IIe siècle de notre ère, et qui considérait qu'il fallait relier la culture en général au christianisme. Voilà, ce qui était un petit peu le, parce que on en parlera peut-être, mais j'ai toujours pensé que la foi de Vincent Paul était une chose absolument inébranlable et tellement belle. Et donc, il voulait pas séparer la foi du christianisme. Donc, on a créé cette Académie Clémentine et on a eu un but qui était de réaliser des colloques, des conférences, des festivals de films, enfin, plein de choses. On en a réalisé beaucoup d'ailleurs et on continue. Et donc, on a commencé avec des interventions de Vincent Paul sur la route de la soie. Voilà, il revenait de passer 20 ans en Asie, il avait crapahuté sur les routes de la soie, il avait découvert notamment le Gandhara, qui était un lieu qu'il avait beaucoup impressionné, et les fameux Bouddhas, la civilisation gréco-bouddhique du Gandhara. Il a écrit un livre, d'ailleurs, sur cette civilisation, sur le Bouddha revisité, qui est un très joli livre. Donc, il a commencé par faire des interventions sur la route de la soie, et de fil en aiguille, on a continué de travailler avec lui, on a formé une équipe très chouette, très sympathique, et puis il se flattait d'être le conseiller culturel de l'Académie Clémentine. C'était très important pour lui.
Alors justement, dans cette culture, il était aussi un critique redoutable du Festival de Cannes, par exemple.
Oui, alors il avait, pendant le Festival de Cannes, il habitait Nice encore à l'époque, puisqu'il est à la fin de sa vie et il est mort à Cannes. Il était détaché par le diocèse pour passer 10 jours à Cannes et il assistait à tous les films. C'était un boulimique de tout, comme l'a dit très justement Claude, mais de cinéma en particulier, il ne ratait pas une séance, etc. Et effectivement, comme vous dites, il avait des critiques des fois très, très acérées, mais tellement justes, tellement... c'était exact, il pointait la petite chose. Et s'il y avait une chose qui, je ne sais pas, qui le choquait, ça le... Il savait trouver le mot, il était... Ça, il n'y en a plus, il est comme ça.
Il animait des ciné-clubs aussi.
Alors, il a animé un ciné-club à Nice, au Mercury, et à la Cinémathèque, aussi, voilà, l'Acropolis. Nice. Et il animait ça avec un garçon qui s'appelle Philippe Serve, avec lequel il a beaucoup travaillé, et qui continue d'ailleurs à animer des ciné-clubs. Alors, c'était aussi un homme de radio, je voudrais juste dire ça, puisqu'on est dans une radio, parce qu'il était donc délégué diocésain à la culture, et on lui avait proposé l'antenne de RCF, les radios chrétiennes de France à Nice, et qui avait un décrochement régional chaque soir. Et donc, par le biais de l'Académie Clémentine, on a eu une heure, ce qui est énorme, d'antenne chaque soir. Alors, on a fait un certain nombre d'émissions successives, donc créées par Vincent Paul. Il en animait une, évidemment, qui était Culture et Foi. Mais, pour vous donner une idée, c'est les créations de Vincent Paul, Culture et Foi, Culture et Entreprise, Culture et Spiritualité, Culture et Cinéma, Culture et Poésie, Culture, Société et Politique, Culture, Sciences Humaines et Philosophie, et Culture, vous avez dit Culture, qui était la mienne. Voilà. Et puis, une émission sur l'enfance de l'art et des émissions sur la musique. Voilà. Donc, il était le père de tout ça.
Et le mot culture revenait quasiment...
Ah oui, à chaque fois. C'était le titre, c'était culture et quelque chose. Mmh. Voilà. Donc, parce que pour lui...
Pour revenir sur culture et entreprise, quand il est revenu de Hong Kong, donc il est resté 7 ou 8 ans en Asie, il avait un œil sur la technopole de Sophia Antipolis. Pourquoi ? C'est que... À Hong Kong, en fait, il s'occupait donc des Français de l'étranger qui étaient installés là-bas. Et en général, c'était plutôt un public de cadres, des ingénieurs qui travaillaient dans des entreprises françaises. Et donc, il y a un appel là. Oui, si vous voulez, je continuerai après.
Alors, nous allons prendre Frédéric Ovadia, que nous avons en direct. D'accord. Bonsoir, Frédéric.
Bonsoir.
Alors, vous êtes éditeur et je crois plus qu'éditeur. Expliquez-nous, Frédéric, vous avez une maison d'édition, mais vous faites beaucoup plus de choses. Alors, présentez-nous un petit peu ce que vous faites. Et puis, dites-nous votre rapport avec Vincent Paul.
Oui, en quelque sorte, je travaille sur le développement de projets. Je développe des projets économiques et je conseille les entreprises dans leur développement. Et notamment... voilà, c'est un domaine qui me passionne, qui est le domaine de l'édition, du numérique. Et donc, je suis en train de développer une action, d'ailleurs, qui m'a beaucoup, beaucoup servi auprès de Vincent Paul, qui était cette capacité incroyable, prolifique, de produire. On a fait 6 livres en 1 an et demi avec lui. C'était pratiquement un livre tous les 4 mois. C'est un homme exceptionnel, universel, qui avait... cette envie très très rare aujourd'hui de rester, d'être un des derniers humanistes, d'avoir une connaissance dans tout, avec une vraie exigence intellectuelle. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et c'est ce qui qui m'a donné cette envie et qui me donne envie encore aujourd'hui d'éditer les prochains livres qu'il a déjà d'ailleurs produit. Et j'ai avec lui une relation très particulière parce qu'il est, je voudrais dire qu'il est encore en moi. Moi, n'étant pas de religion catholique, j'ai appris, j'ai aimé et j'ai beaucoup d'admiration pour cette vision, pour le monde chrétien, grâce à Vincent-Paul Tocoli. Et notamment, le 18 juillet, il m'envoie un mail avec une des images, une bouteille de vin, un gâteau, bonjour, pour me souhaiter ma fête. Et le 5 août, il s'en va. Le 30 juillet, il retient un de ses manuscrits que je devais faire par la suite. Et il devait peut-être vouloir encore le peaufiner. Voilà, jusqu'au bout, c'est un homme qui a été tellement lumineux, tellement puissant aussi, tellement présent que il est toujours là pour nous, enfin pour moi, dans tous les gros projets que j'ai pu mener ensuite et qui ont abouti autour de ce que je fais, avec des structures assez importantes. Eh bien, il m'a accompagné et presque soutenu en étant là et sans être là. Donc voilà, je pense qu'il a réussi sa mission auprès de beaucoup de monde, beaucoup de personnes autour de lui.
Merci Frédéric, c'est un très beau témoignage et je retiendrai en particulier trois mots. La puissance de travail qui était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je pense qu'au-delà ses colères et au-delà, j'allais dire, ses scories, comme on dirait, c'était un homme lumineux et je crois qu'il faut insister sur cette dimension. Il percevait les choses, c'était extraordinaire. Et puis enfin, c'était un humanisme et c'était très important. Merci Frédéric.
Merci à vous.
Alors continuons.
Oui, donc pour revenir au cercle Philosophia, donc il avait un grand intérêt pour la technopole de Sophia Antipolis parce qu'il voulait justement y créer, puisque c'est une technopole où il y a plutôt des entreprises scientifiques, il voulait y créer un lieu de sciences humaines, y introduire un peu plus les sciences humaines et y attirer donc tous ces ingénieurs, techniciens, etc. Il y a près de 40 000 personnes qui arrivent à Sophia tous les jours pour y travailler. Donc, créer quelque chose où ces personnes puissent venir une fois par semaine, eh bien, réfléchir un peu à leur travail et à ce qu'ils et à eux-mêmes. C'était un peu les deux phares. Qui suis-je et réfléchir à soi-même et qu'est-ce que je fais et surtout pourquoi je le fais. Et donc, il avait envie donc de faire cela, mais ça a été assez difficile parce que les gens qui travaillent sur cette technopole ont des horaires de folie et donc c'était difficile de trouver un créneau où ils puissent venir sans difficulté. Mais ça a fonctionné pendant 8 ans.
Et à l'heure du déjeuner quand même, ça c'est...
Et alors, c'était à l'heure du déjeuner, voilà. Et on pouvait éventuellement manger un sandwich tout en participant à ces rencontres. Alors, pour finir sur Sophia Antipolis, il devait partir un an en année sabbatique au Japon. Et il m'a appelé pour me demander donc de m'occuper de ce cercle pendant son absence. Et dans ces cas-là, il dit, tu dis oui ou tu dis non? Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, dis-le moi vite parce qu'il faut que je m'organise. Bon, alors j'ai accepté, me disant que c'était provisoire. Et en fait, il n'est pas parti parce qu'il a, pour des raisons de santé, il n'est pas parti. Et il est donc resté à Nice à l'époque et je pensais qu'il allait reprendre les rênes du cercle, mais finalement il m'a laissé continuer à organiser ses rencontres jusqu'à la fin, jusqu'en 2012.
Merci Eve, nous aurions tant de choses encore à dire, je pense que nous allons peut-être avoir au téléphone dans quelques instants Jean-François Maténi, nous allons vérifier s'il est arrivé à Marseille. Poursuivons enfin cette exploration de Vincent Paul. Nicole, qu'auriez-vous à dire pour terminer qui éclaire un peu plus la palette des approches de Vincent Paul?
Non, je voudrais dire j'ai deux choses que j'oublierai jamais de Vincent Paul. C'est d'abord son esprit de synthèse. C'était quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire que nous faisions des colloques, il y avait des interventions souvent assez compliquées, assez pointues. Je veux dire, si on perdait le fil un tout petit peu, il n'y avait pas de problème entre deux intervenants. En 3 minutes de temps, Vincent Paul avait tout résumé. On se croyait intelligent tout d'un coup pendant 3 minutes. Il savait nous rendre intelligents, c'était magique. Et puis, quelque chose qui m'a aussi beaucoup touchée, qui me touchera toujours, c'est sa foi, je vous l'ai dit. C'est pas suis pas particulièrement moi-même comme cela, mais c'était merveilleux. C'était une foi inébranlable et je ne sais pas si je peux juste... Non.
Nous allons malheureusement pas le temps, Nicole, puisque Jean-François a réussi ce quasi-miracle d'aller enregistrer une émission à Paris et d'arriver à Marseille, donc nous allons l'avoir dans un instant. Je rappellerai ici qu'il y a quelque chose qui relie Jean-François Mattei, Max Poti et Vincent Paul. Ils viennent tous les trois de l'Algérie et la mer Méditerranée, je crois, quelque chose de très important et une sorte de référence en arrière-fond sur Camus qui me semble très importante. Jean-François ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir Jean-François. Alors, qu'avez-vous apporté à ce témoignage que nous essayons de faire à Vincent Paul, que vous avez bien connu ?
Bien, c'est à la fois un témoignage méditerranéen, comme vous le disiez il y a un instant. Il y avait une chaleur toute camusienne chez Vincent Paul. Et en même temps, un témoignage sur l'extraordinaire brio de cet homme qui était à la fois prêtre, psychanalyste, psychologue, écrivain, philosophe qui connaissait une dizaine de langues, dont des langues mortes, comme le grec et le latin, ou des langues modernes, qui avait été à peu près dans tous les coins du monde, au Vietnam, en Chine. Et en même temps, c'était un homme d'une générosité tout à fait étonnante, d'une générosité à la fois d'ordre affectif et en même temps d'une générosité d'ordre intellectuel. Il donnait ses conseils, il donnait ses idées, et il ne les prêtait pas simplement. Et en même temps, il débordait d'une joie, d'une animation qui était vraiment très très rare. Vous savez, j'ai enseigné pendant 30 ans à l'université de Nice et dans d'autres universités du monde, au Canada, à Istanbul, et je n'ai jamais rencontré un personnage, ou une personnalité plutôt, de cette trempe, à la fois sur le plan intellectuel, sur le plan affectif, et je dois dire aussi sur le plan spirituel et religieux, je crois qu'il y a une grande dimension, il y avait une grande dimension religieuse et spirituelle chez Vincent Paul Toccoli.
Difficile de rajouter autre chose, Jean-François. Je pense que vous avez résumé rapidement, de façon très synthétique, l'essentiel de... Vous aviez quelques liens par rapport à Albert Camus aussi, hein ?
Oui, non seulement nous étions tous deux nés en Algérie, mais nous avons eu souvent l'occasion de parler de Camus, même à l'époque, il y a quelques années déjà, où il n'avait pas le succès qu'il a aujourd'hui, en particulier en cette année 2013, qui est le centenaire de sa naissance.
Et pour lequel Jean-François...
Il y a des hommages partout, non seulement en France, mais à l'étranger.
Jean-François...
Et nous avions souvent parlé de textes de Camus.
Jean-François, vous avez écrit plusieurs livres sur Camus, hein, je pense.
Oui, j'ai écrit 4 livres sur Camus, voilà. 2 livres collectifs et 2 livres personnels sur Camus, qui ont très bien marché et qui... ont essayé de retrouver l'itinéraire spirituel de Camus, qui n'était pas si éloigné que cela, bien que Camus ne fût pas croyant, de l'itinéraire spirituel et intellectuel de Vincent Paul Toccoli. D'où le fait que nous en parlions souvent ensemble.
Merci Jean-François de ce témoignage, et à bientôt, je pense, dans une autre émission.
Merci de m'avoir interrogé, et toutes mes amitiés.
Merci. Alors, un dernier mot, vous qui êtes en studio, Nicole, un dernier mot.
Eh bien, moi, il m'est resté ce titre qu'il, à un moment, on s'est interrogé de savoir si on continue à appeler le cercle Philosophia de ce nom, puisque on est descendu sur Cannes à cause de son état de santé. À la fin, il ne pouvait plus se déplacer jusqu'à Sophia Antipolis. Donc, on a continué le cercle Philosophia à Cannes et on se demandait si on continuait de l'appeler comme ça. Et je me souviens qu'on faisait un brainstorming pour trouver un nouveau titre. Et à un moment, il avait dit, eh bien, on pourrait l'appeler aussi Courage, pensons. J'ai trouvé ça magnifique.
Tout à fait. Nicole ?
Je voudrais dire que le 12 avril, hein, 2014, le 12 avril, nous allons faire une soirée organisée par Claudine, qui a si bien parlé tout à l'heure, Ève, et moi-même, donc l'Académie Clémentine, et Jacques Vanier, qui est le président de Clémentine. On va lui rendre hommage. C'est-à-dire qu'on va inviter autour d'une table, ça va pas être une suite de gens qui vont parler, mortuaires ou quoi. On va inviter autour d'une table tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont aimé, et on va faire un grand mélange de toutes ces impressions, un petit peu comme vous l'avez fait ce soir. Voilà, à partir de 18h30, à Cannes, mais peut-être vous pourrez l'annoncer si vous avez l'occasion.
Bien sûr, Nicole, mais dites-nous l'endroit.
Voilà, donc ce sera au Logis des Jeunes de Provence, rue Mimont à Cannes, le 12 avril à partir de 18h30.
2014. Ce
sera... Comment ?
Le 12 avril 2014,
oui,
donc.
Voilà, rue Mimont à Cannes, au Logis des Jeunes de Provence.
Voilà. C'est derrière la gare, je crois.
Exactement.
Ah, voilà.
Alors, je voulais juste dire aussi peut-être que son site, parce qu'il y a peut-être des personnes qui le suivent régulièrement et qui croient qu'à la suite de son décès, son site est fermé. Ben, c'est pas le cas du tout. Et dire donc que l'Académie Clémentine va reprendre sur son site, qui est www.academie-clémentine.org, va rapatrier, entre guillemets, donc, le site de Vincent Paul, le blog de Vincent Paul, les bouquins de Vincent Paul. Donc voilà, donc on va mettre une page spéciale Vincent Paul, un lien vers lui, et qu'on va entretenir et alimenter avec toute notre affection et tout le respect et toute l'admiration qu'on lui doit.
Merci Ève, merci Nicole.
Merci.
On terminera par la contribution de Max Poti, qui est dans l'avion entre New York et Paris en ce moment. Et je citerai tout simplement le tout petit texte qu'il avait fait pour le dernier livre de Vincent Paul, Pour l'éternité, qui est paru aux éditions Ovadia. Alors, Max Poti parle du frère Jean des Entomeurs. Chers auditeurs, si vous avez perdu un peu la mémoire, allez voir ce que Rabelais dit de ce personnage, et vous comprendrez le sens que Max Poti dit. Voici ce que Max dit. Et nous allons terminer sur une musique, la Symphonie du Nouveau Monde, qui était une musique, je crois, qu'il aimait énormément. Au revoir, Toto. Notre frère Jean des Entomeurs, dont l'esprit continuera longtemps de nous animer, la voix de nous secouer, l'amour de vivre de nous étonner, la culture de nous interpeller sur le chemin de notre devenir. En ton Christ, tu chercheras toujours la tolérance et la lumière. S'il te plaît, dis-lui là-haut de prier pour les cons.